le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour, la Suisse vient de marquer face au Cameroun pour leur premier match du mondial au Qatar. Les footballeurs helvétiques ont pris les devants. La Nati mène 1-0 face au Lion indomptable. La manifestation hier contre le plan économie 22-26 pourrait porter ses fruits. Ce matin, les responsables de groupes au Parlement sont mitigés. Certains veulent maintenir ces mesures, d'autres réfléchissent à un report de l'entrée en vigueur. Un manque de preuves et c'est le blanchiment des 5 prévenus dans le cadre du procès ouvert à Moutier pour traite d'êtres humains et viol sur des ex-épouses. Le tribunal Jura-Bernois-Seeland n'a retenu que des peines mineures contre les 4 fils et le père. Sous un ciel bleu, les températures aussi prennent des couleurs avec un maximum de 10 degrés cet après-midi. Demain, c'est à nouveau un temps instable qui est au programme. La Suisse est donc dans le vif du sujet au Qatar. Elle a entamé son parcours à la Coupe du Monde de football. La Nati est aux prises avec le Cameroun pour ce premier match du groupe G à Doha. La partie a commencé à 11h. La sélection de Mourad Yakin vient de marquer et mène 1-0, Mathieu Schaffner.
Oui, c'est tout un symbole. Brel Embolo, premier buteur suisse dans cette Coupe du Monde. Brel Embolo, né à Yaoundé. La Suisse qui a dû patienter pour son premier tir cadré à la 48e minute de jeu. Elle ouvre la marque sur un centre de Sherdan Shaqiri, la Suisse entreprenante, offensive, qui tient le ballon, qui ne se cache pas, une Nati qui affiche ses ambitions au Qatar. Mais attention, le Cameroun s'est procuré les meilleures occasions en début de match, à chaque fois par Choupo-Moting. Il a fallu un Yann Sommer attentif à plusieurs reprises dans le premier quart d'heure pour garder les buts suisses inviolés. Le Cameroun qui utilise sa vitesse pour se projeter très rapidement vers l'avant, et cela, eh bien, ça crée des brèches dans la défense helvétique. Il a manqué jusqu'à cette 48 un peu de précision à la Nati en attaque. Peu de ballons qui sont arrivés dans les 16 mètres. Il y a eu pas mal de déchets. On a vraiment peiné à trouver Brel Embolo en pointe. Le milieu de terrain, par contre, a bien fonctionné avec de nombreuses récupérations très haut sur le terrain. La Suisse qui a davantage peiné après la première demi-heure, mais qui a retrouvé de l'allant depuis la pause. Et on a vraiment le sentiment, Nancy, que cette Nati, elle peut prendre la mesure des Lions indomptables.
Merci Mathieu Schaffner. Et on vous retrouve dans la suite de ce journal. Et vous intervenez si le score devait évoluer. C'est donc 1-0 pour la Suisse pour le moment. Les débats s'annoncent tendus autour du plan équilibre 22-26 des finances cantonales. Le projet du gouvernement a suscité hier soir une manifestation qui a rassemblé près de 500 personnes devant l'hôtel du Parlement. Une mobilisation qui est assez rare. La voix de la rue sera-t-elle suffisamment forte pour influencer les débats parlementaires mi-décembre? Jérémy Pignard, vous avez pris la température auprès des différents chefs de groupes parlementaires.
Oui, et le principal reproche des syndicats et de la rue, c'était de ne pas avoir consulté les partenaires sociaux. Une critique partagé aussi par le PDC qui parle de précipitation. Pour le chef du groupe parlementaire Stéphane Teria, il faut prendre le temps de la discussion et il ne serait pas sage de se prononcer dès la mi-décembre.
Très clairement, le PDC a déjà eu l'occasion de se prononcer en CGF sur le fait qu'il souhaitait reporter ce dossier de façon à ce qu'on ait un dossier qui soit plus abouti et qu'il doit avoir une concertation plus importante avec les différents partenaires et les parties concernées. Et puis, je crois qu'il faut laisser ensuite aux députés le temps de travailler le dossier. Il y a quand même pas mal d'allers-retours à faire, des explications à donner, avoir un dossier plus étayé que ce qu'on a actuellement pour pouvoir se prononcer et faire les bons choix pour la suite.
Et au Parti Socialiste, on estime qu'il faut tenir compte des quelques 3700 signatures recueillies par la pétition ainsi que de la manifestation qui s'est tenue hier devant le Parlement. Fabrice Macquin indique que la position du groupe qu'il préside n'est pas encore définie et qu'une non-entrée en matière reste possible, même si le congrès du UPS a recommandé une ligne de conduite.
C'est vrai, il est bon de rappeler que le congrès du PS nous a donné une indication pour entrer en matière. Je rappellerai juste que entrer en matière ne veut pas dire accepter le plan équilibre, c'est simplement entrer en discussion et après a défini des lignes rouges que nous ne voulons pas franchir ou qui se concrétisent par une dizaine de mesures que nous ne voulons pas dans ce plan équilibre. Je peux parler de celles qui touchent la fonction publique, de celles qui touchent la FICD, la formation également, le quote-part pour les personnes qui ont besoin des soins à domicile. Donc de ce côté-là, c'est vrai que le Congrès nous demandait plutôt de discuter, d'entrer en discussion, mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ce plan équilibre.
À l'inverse, à droite au PLR, on se dit conscient que certaines mesures sont impopulaires, mais on semble prêt à assumer une certaine case malheureusement nécessaire au vu de l'urgence de la situation, selon le chef de groupe Gabriel Voirol.
Je crois qu'il faut aussi avoir le courage de se dire que la fortune de l'État, sans mesure particulière, va être bientôt négative. Toujours est-il que si une prestation venait à être retirée du paquet, il faudra bien trouver ailleurs. Et c'est là où l'équilibre est extrêmement compliqué, parce que la marge de manœuvre est extrêmement faible si on n'a pas envie d'arriver à cette fortune négative. On est conscient que chaque mesure qui est prise, derrière, il y a des personnes. Mais aujourd'hui, on se doit de faire un exercice sur ce qui est vraiment indispensable au fonctionnement de l'État pour assurer justement aux générations futures une situation qui soit des plus corrects possibles.
Et du côté de l'UDC, le président du groupe, Didier Spies, estime que le plan équilibre 22-26 aurait dû être davantage concerté. Il affirme que le gouvernement a voulu refiler la patate chaude au Parlement. Mais pour lui, les manifestants se sont trompés de cible hier en sifflant les membres du législatif alors que le plan a été pensé par l'exécutif.
Et le plan d'économie 22-26 sera au menu de la séance du Parlement le 14 décembre. Les conséquences des mesures d'économie du canton du Jura sur les Franches-Montagnes, c'est aussi le sujet abordé ce soir à l'Ajou lors de l'Assemblée générale du syndicat des communes des Franches-Montagnes. Le maire de Seignelégier, Vincent Vermeil, présentera aux autres membres du SCFM les répercussions du PE 22-26, le plan d'équilibre cantonal. Il s'agit davantage d'une mise à niveau que d'une avancée sur le dossier, Nicolas Meusy.
Ce point arrive peut-être un peu trop tôt à la table du syndicat des communes, à en croire Vincent Vermeil. On pensait qu'à ce stade, on aurait plus d'informations de la part de la commission de gestion et des finances du Parlement et de l'association jurassienne des communes, nous a indiqué le maire de Seignelégier. Le but de la présentation est donc de rappeler aux autres maires ténions les impacts du PE 22-26 sur les communes, des impacts présentés en septembre dernier dans le message du gouvernement destiné au Parlement. L'intervention de Vincent Vermeil portera entre autres sur la semaine de vacances supplémentaires non payées pour l'administration cantonale et l'enseignement, ou encore l'élargissement de l'assiette fiscale, ça c'est pour les points en faveur des communes. Pour les négatifs, il y a notamment une augmentation de la participation des communes à Jura Tourisme pour contrebalancer la réduction de la subvention cantonale.
Autre point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du SCFM, le transfert des biens de l'ancien syndicat qui a laissé place au syndicat des communes et l'abandon du droit d'acheter un terrain au profit du syndicat de la zone d'activité d'intérêt cantonal des Franches-Montagnes. Le canton du Jura veut renforcer les prestations en ligne à destination de la population. Le gouvernement a transmis son message au Parlement concernant la révision partielle de la loi sur le guichet virtuel. Les modifications projetées sont axées sur la transition numérique des administrations publiques et la sécurité informatique. La collaboration entre le canton et les communes a été clarifiée. L'objectif est notamment que les communes fournissent l'essentiel de leurs prestations via le guichet virtuel. Les changements doivent donc leur permettre de mutualiser leurs ressources humaines et financières. Un don du sang est organisé cet après-midi dans les Franches-Montagnes. Les donneurs sont attendus à la salle de paroisse à Seignelégier de 16h à 19h30. C'est l'épilogue d'un très long procès ouvert le 7 novembre à Moutier. Les cinq hommes originaires des Balkans poursuivis pour traite d'êtres humains et viol sur des ex-épouses ont été libérés ce matin. Des principales accusations, les précisions d'Olivier Zano.
La salle principale du tribunal de Moutier était archi-comble ce matin pour le prononcé du jugement. C'est que cette affaire de traite d'êtres humains a fait du bruit, pas seulement dans le Jura bernois où les faits auraient été commis, mais partout en Suisse. Bref rappel de l'acte d'accusation, un père et ses quatre fils devaient répondre à des degrés divers de traite d'êtres humains, de mariage forcé, de lésions corporelles, de viol et de séquestration, ceci à l'égard de quatre jeunes femmes. C'est le patriarche qui aurait arrangé le mariage de ses fils en faisant venir depuis les Balkans des jeunes filles mineures. Pour le tribunal, la mission très complexe a été de définir la crédibilité des deux camps. D'un côté, le clan familial des prévenus, très soudé, de l'autre, les ex-femmes, elles aussi constituées en groupe homogène. Au final, deux versions totalement contradictoires qui se sont opposées. Impossible pour le tribunal de se forger une conviction suffisante. Le président du tribunal, Jocelyn Richard, a longuement relevé les nombreux éléments flous, dissonants, notamment dans les déclarations des jeunes femmes. Certaines sont en situation illégale en Suisse. Et si leur situation respective, la jalousie des maris et aussi le poids de certaines traditions balkaniques peuvent expliquer un malheur ou des tensions, rien ne vient soutenir les graves accusations portées devant le tribunal.
Le père sur qui pesaient les plus lourdes accusations a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis pendant 4 ans. Pour infraction à la loi sur les étrangers, on lui reproche notamment d'avoir facilité l'entrée en Suisse de certaines de ses belles-filles. Il échappe à une expulsion, tout comme ses fils qui écopent pour la plupart de peines mineures. L'acquisition du nouveau système de surveillance de l'espace aérien va coûter plus cher que prévu. La dépense évaluée à 155 millions de francs devrait doubler à 314 millions. Le département de la Défense confirme l'information de la radio SRF. Le DDPS justifie cette hausse massive par des coûts supplémentaires pour le réseau et le cryptage. WhatsApp, Instagram et Snapchat sont aujourd'hui les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes Suisses. Si TikTok enregistre une hausse fulgurante, Facebook est délaissé par la nouvelle génération. Un millier de jeunes de 12 à 19 ans ont dévoilé leurs activités en ligne aux chercheurs de la Haute École des sciences appliquées de Zurich. L'étude James est réalisée tous les deux ans. Elle permet d'observer l'évolution de la consommation des réseaux sociaux chez les jeunes. Les plateformes sont surtout utilisées pour communiquer avec les autres, regarder des posts, liker et jouer. Mais ces activités ne sont pas sans danger, les explications de Marie Vuillemier.
Les jeux gratuits sont très populaires auprès des jeunes, révèle l'étude James, mais cela signifie que les joueurs sont particulièrement exposés à la publicité et souvent incités à dépenser de l'argent pour pouvoir avancer dans le jeu. 8% des individus interrogés font régulièrement des achats de ce type. Les jeunes négligent aussi de plus en plus leurs données personnelles. Ils ne sont que 60% à avoir activé des paramètres de protection de la vie privée et ils sont de moins en moins nombreux à craindre une diffusion de leurs informations personnelles. Un autre danger des réseaux sociaux est le cyberharcèlement. L'étude montre que ce phénomène grandit. Aujourd'hui, un jeune sur deux a déjà été harcelé en ligne. Les filles sont nettement plus touchées que les garçons par le harcèlement sexuel sur les réseaux. Environ la moitié d'entre elles ont déjà été incitées par une personne inconnue à envoyer des photos érotiques. Les auteurs de l'étude estiment qu'il est urgent de faire plus de prévention dans ce domaine.
Et malgré leur attirance pour les réseaux sociaux, les jeunes passent tout de même 70% de leur temps libre avec leurs amis.
RFJ, il est 12h27.
Sport. La Suisse a pris les devants à Doha face au Cameroun, c'est 1-0 et on y revient en fin d'édition. Avant cela, on va parler de sport de combat. Le judo jurassien met le cap sur la capitale olympique pour empocher des médailles. 14 athlètes de la région vont prendre part ce week-end au championnat de Suisse à Lausanne. L'association jurassienne espère récolter 4 à 5 podiums, mais ce n'est pas son unique objectif. Son président Dominique Berthold.
C'est un formidable moyen de promouvoir notre sport parmi les jeunes, de montrer nos judokas comme modèle à nos membres actuels et puis susciter des vocations peut-être chez nos jeunes pour la suite. Je crois que c'est le but de tout club, c'est de former la relève. Donc je pense qu'à ce titre-là, le championnat suisse, les médailles que nos combattants pourraient gagner vont grandement nous aider à faire la promotion de notre sport. Dans la région et en général, le judo reste quand même un sport un peu confidentiel. Donc il y a tout intérêt pour nous à communiquer au maximum sur ce sport pour faire connaître ceci à un maximum de personnes et attirer des membres supplémentaires. Donc on a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de bruit autour de ces manifestations.
On revient au Qatar où Suisse-Cameroun, c'est le premier match de la Nati à la Coupe du Monde de football et c'est en ce moment du côté de Doha. Mathieu Schaffner, la Suisse mène toujours 1-0.
Oui, 69e minute de jeu, la Suisse qui vient de passer à deux reprises tout proche du deuxième. Tout d'abord par Vargas sur un caviar de Widmer, parade réflexe du portier adverse Onana, puis sur le corner qui a suivi, eh bien, un défenseur camerounais a été tout proche d'inscrire un autogol. La Suisse qui a drastiquement levé le pied, qui s'est regroupé, qui joue plus bas sur le terrain depuis l'ouverture de la marque de Brel Embolo à la 48e, mais qui reste relativement sereine, qui joue davantage en contre. Et bien, on est tout proche quand même du 2-0, même si, il faut le souligner, Yann Sommer réalise à nouveau un grand match dans la cage helvétique. 69e minute de jeu, aucun changement pour la Suisse. Une Suisse qui mène donc 1-0 face au Cameroun dans ce premier match de la Coupe du Monde pour la Nati.
Merci Mathieu, et vous pouvez suivre ce match via notre live blog sur rfj.ch. On y revient bien entendu dans nos rendez-vous d'information de l'après-midi. Réaction à retrouver également à 18h ainsi que dans le journal de la Coupe du Monde à 18h30. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un bel après-midi.